Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Cette semaine, nous allons entreprendre une série sur l'impact de la culture. Cette série est basée sur une recherche de Claude Deblois et Lise Corriveau sur la culture de l'école secondaire et le cheminement scolaire des élèves. Nous allons voir par cette étude de Deblois et Corriveau que la culture d'un milieu influence directement la façon de vivre des gens qui la composent. Évidemment, on va faire référence à des indices qu'on retrouve dans le milieu scolaire, mais ça s'applique à énormément d'endroits dans la société. Ça s'applique peut-être dans votre entreprise, ça s'applique peut-être dans votre église, dans votre groupe communautaire, dans votre groupe social, peut-être même dans votre famille. Et pour bien comprendre l'enjeu aujourd'hui, nous allons introduire les concepts de culture et de culture organisationnelle. Premièrement, allons voir comment Deblois et Corriveau définissent le concept de culture à la page 10 de leur ouvrage. Voici ce qu'ils disent. Cette notion renvoie à l'expérience de vie en groupe, à ce sentiment qui naît dès que l'on s'intègre à un groupe de personnes sur une longue période pour réaliser un projet quelconque. Ce sentiment vague est aussi ressenti lorsqu'on rentre dans un établissement comme l'école. Il suffit d'y mettre le pied pour se rendre compte qu'il existe une vie commune particulière à l'établissement qui semble aller de soi pour ceux qui y appartiennent. Et ça, c'est clair. Avez-vous déjà mis le pied? Et comme je vous dis, ça, ici, on parle d'une école, mais vous entrez dans une église. Vous savez, moi, je sais dès les premiers temps quel type d'église c'est. Quel genre de leadership qu'on retrouve dans cette église? Quel genre de culture? Est-ce que c'est une église qui est plus axée, justement, une église qu'on dit qui est plus charismatique, qui met une emphase plus particulière sur les dons du Saint-Esprit? Est-ce que c'est une église qui est plus centrée sur l'enseignement, sur le côté théologique? Ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite par la décoration. Ça se voit tout de suite par la façon de procéder. On voit si une église, par exemple, elle est protocolaire, si c'est une église qui est plus large, qui est plus ouverte, entre guillemets. Alors, tout ça, c'est la culture de l'établissement. Vous entrez, par exemple, je sais pas moi, dans un club social, et vous arrivez dans un club social et vous allez voir sur le mur les photos des fondateurs. Vous allez voir que la décoration est un peu rétrograde, elle n'est pas au goût du jour. Vous arrivez dans un autre club social, eh bien, c'est tout le contraire. Tout est au goût du jour et les photos, c'est des photos qui ont été prises il y a peut-être quelques jours, quelques semaines. Tout est dans l'instantané et dans le présent et il y a énormément de changements. Et ça, ça fait partie d'une culture, une façon de vivre, une façon d'être. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ici, ce que Deblois et Corriveau nous disent, ce sentiment vague est aussi ressenti lorsqu'on rentre dans un établissement. Et donc, vous le ressentez. Ça se vit, ça s'identifie par des points de repère, mais ça se ressent également. On va voir si justement une église, même si on rentre dans une église puis on donne par exemple le bulletin de la semaine ou le bulletin de la célébration, c'est pas parce que quelqu'un a l'accueil que ça fait d'elle une église accueillante. Et tout ça se ressent dans la façon d'être et dans la façon de vivre de l'organisation. Et donc, cette réalité-là, elle est également organisationnelle. Qu'est-ce que nous dit Deblois et Corriveau? La réalité sociale et organisationnelle prend donc naissance dans la conscience subjective des individus. Donc, ce n'est pas toujours dans le dit, c'est souvent dans le non-dit et ça se perçoit intuitivement, ça se perçoit sensoriellement. C'est en donnant un sens et des valeurs à la réalité qui les entoure que les individus et les groupes d'individus développent une façon de voir et de comprendre les choses autour d'eux, et apprennent à fonctionner normalement. Donc, c'est en donnant un sens et des valeurs à la réalité qui les entoure que les individus et les groupes d'individus développent une façon de voir et de comprendre les choses autour d'eux et apprennent à fonctionner normalement, c'est-à-dire selon la vision commune ou la culture qu'ils ont élaborée comme groupe. Et donc, quand on arrive, on dit « ben non, ben c'est comme ça qu'on le fait normalement ». Ça veut dire que c'est ancré dans la culture. Quand c'est ancré dans la culture, c'est quasi indélogeable. Vous arrivez, par exemple, un dimanche à l'église et d'une manière spéciale, vous êtes habitué, par exemple, c'est typique, chant, louange, et ensuite, vous avez un message du pasteur. Après, vous avez les annonces. Dans certains groupes, les annonces sont au début, d'autres groupes, les annonces sont après les chants, d'autres groupes sont à la fin. Mais peu importe, vous arrivez un dimanche, typique, vous avez les chants, vous avez le message. Et là, il y a un dimanche qui vous arrivez et il y a trois chants, le message du pasteur et trois chants à la fin. Et là, savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Excusez-moi. Savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Il y a certainement des gens qui vont aller voir le pasteur. Comment ça se fait qu'on a fait ça comme ça? Ça, c'est assez étonnant. Hein? Il y a des gens qui vont être bouleversés parce qu'on a changé la formulation. Comme si la formule, elle est divine en soi. Qu'on adopte une formule, il n'y a aucun problème. Qu'on adopte une façon de faire, si c'est la meilleure façon pour rejoindre... Et si c'est... Mais ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas que c'est bien ou mal. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou mal. Je suis en train de dire que lorsqu'on fonctionne d'une certaine façon, il y a un certain protocole, il y a une certaine façon de faire, ça veut dire que c'est ancré dans la culture. Et il y a des éléments puissants dans une culture organisationnelle, donc dans la vie d'une organisation, dans la vie, je dirais, d'un établissement. Puis quand je parle d'établissement, je ne parle pas du bâtiment ou de la structure physique, mais de ce qui est établi comme communauté. Et donc, il y a des éléments puissants dans une culture organisationnelle. D'abord, la réalité historique. Quelqu'un qui va s'insérer dans une organisation doit s'adapter à une réalité existante s'il veut s'intégrer, c'est clair. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Il va avoir à faire face à une résistance, ce qu'on appelle la résistance au changement. Cette culture est en quelque sorte ce que nous dit Deblot et Corriveau, cette culture est en quelque sorte la résultante de l'expérience personnelle des membres de l'organisation et des actions passées qu'ils ont posées. L'histoire d'une organisation est donc cruciale pour comprendre la culture de celle-ci. Pourquoi vous pensez que je reviens régulièrement sur la question du patrimoine québécois? Le patrimoine québécois, à partir de Jacques Cartier, qui est venu planter des croix en Nouvelle-France. Parce que ce sont des points de repère historiques dans lesquels, et avec des convictions de foi, vous allez dire, oui, mais la plupart de ceux qui sont venus, là, qui ont marqué l'histoire, en tout cas les livres d'histoire du Québec, ce sont des catholiques. Parce que oui, il y a eu des huguenots, des protestants, si on peut dire l'équivalent des protestants évangéliques de l'époque, qui sont venus en Nouvelle-France, mais qui ont été assimilés. Et donc, par des mariages mixtes, tout ça, n'ont pas pu se développer. Même si à un certain moment, il y avait plus de protestants au Québec que de catholiques, il reste que néanmoins, les catholiques ont fait plus d'enfants. Et les catholiques ont marié des protestants. Et ça l'a fait en sorte que les protestants ont fréquenté l'Église catholique plutôt que l'Église protestante, et c'est elle qui est devenue dominante. Mais néanmoins, il y a eu, depuis la fondation de la Nouvelle-France et depuis la fondation du Québec, des points de repère judéo-chrétiens, des points de repère qui marquent notre société. La fête de Noël, par exemple, la fête de l'Action de grâce, la fête de Pâques. Vous allez dire, oui, mais ça l'a changé depuis ce temps-là. Oui, mais pourquoi on ne pourrait pas les garder pour justement s'en servir de tremplin pour faire référence au vrai symbole que c'est? Afin qu'il y ait un point d'ancrage pour dire à notre culture, à la culture présente, la culture existante, c'est pas, je vais utiliser une expression anglophone, c'est pas « out of nowhere », ça ne vient pas de nulle part, ça fait partie de notre parcours. Il y a un respect qu'on doit attacher à ça parce que, pour une des raisons premières, ça fait partie de notre patrimoine, mais une raison encore plus profonde, et c'est elle qu'on doit expliquer, il y a un sens spirituel à tout ça. Et donc, deuxièmement, Qu'est-ce que nous dit De Blois et Corriveau? Si cette culture se fonde sur les valeurs et le sens que donnent les individus à cette organisation, cela suppose que cette culture est toujours appelée à évoluer. Ce sont donc les individus et les groupes d'individus qui peuvent redéfinir au besoin le sens à donner à l'organisation. Et donc, qu'est-ce que ça dit, ça? C'est vraiment puissant ce que ça dit. Réalisez-vous. Réalisez-vous. Ce sont les individus et les groupes d'individus qui peuvent redéfinir au besoin le sens à donner à l'organisation. Le sens à donner aux choses, le sens à donner aux valeurs, le sens à donner à la perception, à l'évaluation des valeurs dans notre société repose sur des individus et des groupes d'individus. Si les individus se taisent, s'ils ne parlent pas, s'ils ne s'expriment pas, s'ils ne défendent pas des valeurs, s'ils ne mettent pas en priorité des valeurs, c'est presque un pléonasme. Eh bien, ce qui se passe, c'est que pendant que certains se taisent, d'autres parlent, et c'est ceux qui parlent et ceux qui agissent qui font changer les choses et qui génèrent et produisent une culture. De Blois et Corriveau disent « Lorsque le groupe partage une vision hautement homogène et des valeurs largement partagées, on parle généralement de culture forte. » Des valeurs partagées. Homogènes qui sont dans un seul ensemble, qui ne font qu'un. Et savez-vous quoi? Je ne sais pas si vous réalisez comment c'est puissant. Comment c'est puissant parce que si justement la génération silencieuse, si la masse silencieuse s'exprimait, revendiquait des valeurs qui ont été historiquement des valeurs reconnues, qui sont continuellement remises en question, eh bien, on pourrait faire la différence, puis avoir une société qui est beaucoup plus ouverte, une société qui est beaucoup plus prête à recevoir un message d'espoir. Le concept de culture organisationnelle, eh bien, fait donc référence à la dynamique particulière qui se développe à l'intérieur d'un groupe, aux liens qui se créent entre les personnes, à la vision et au langage commun qui émerge presque de façon naturelle dès que des personnes s'associent pour poursuivre des objectifs communs. La notion de culture confère aussi l'idée de valeurs communes, de modes de pensée largement partagés par les membres, de normes auxquelles ils adhèrent progressivement et qui facilitent la compréhension mutuelle et le fonctionnement quotidien. Une culture commune se manifeste aussi de façon tangible par des rites, des célébrations. Par des rites et des célébrations. Parce qu'elle est construite autour d'une expérience partagée. Une culture s'appuie enfin sur une histoire qui relate les moments importants et déterminants de l'évolution du groupe. Une histoire que les membres se remémorent et dans laquelle ils retrouvent le sens de leur engagement. C'est pour ça que moi, je veux qu'on mette en valeur Noël, Pâques et l'Action de grâce au Québec. Qu'on n'enlève pas ces congés. Qu'on les valorise, qu'on amène les groupes, les entreprises à donner congé aux gens ces jours-là pour célébrer. Et même s'il y a des gens qui ne célèbrent pas pour les raisons que les gens de foi vont mettre de l'avant, vont revendiquer, eh bien, elle est reconnue comme telle. Noël est reconnu comme une fête. Une fête, et même les employeurs sont obligés de nous payer, même si on ne travaille pas cette journée-là. C'est un privilège, mais c'est un privilège significatif. Et à ce moment-là, l'Église peut, à ce moment-là, définir le sens et proclamer le sens. L'association du concept de culture à celui d'organisation fait référence à la réalité culturelle qui se crée à l'intérieur d'un groupe restreint qui s'est constitué pour des fins spécifiques et qui poursuit une mission commune. La culture d'un groupe est donc en quelque sorte ce qui anime et inspire le fonctionnement du groupe, ce qui donne vie et sens aux démarches organisationnelles et administratives. Enfin, la culture organisationnelle repose sur des postulats qui, de par leur nature, font partie du patrimoine commun du groupe sans être clairement présents à la conscience des membres. Ceux-ci influencent et expliquent par ailleurs le type de comportement qui prédomine dans l'institution. Ce qui prédomine dans notre culture, par exemple, au Québec, eh bien, c'est à cause qu'il y a des gens qui ont inspiré qui ont incité, qui ont fait du lobbying, qui ont manœuvré pour opérer des changements et souvent contre le gré de l'ensemble de la population. Pourquoi? Parce qu'ils étaient impliqués, parce qu'ils parlaient, parce qu'ils étaient là d'une manière stratégique au bon moment et au bon endroit. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait un changement de valeur. Et dans ce changement de valeur, on voit de plus en plus une résistance à un message d'espoir. On va poursuivre cette réflexion dans les prochains jours. On se donne 4 journées pour réfléchir justement sur le concept de culture, sur l'influence de la culture. Et malheureusement, c'est déjà le temps de clore cette émission. Je vous invite donc à poursuivre la discussion avec moi en m'écrivant à leblogueur@commercialericlantier.net. C'est leblogueur@commercialericlantier.net. Je vous invite également à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. N'oubliez pas que cette émission est également disponible sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM. Je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. Le blogueur à commercial ericlantier.net. Tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!